VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 18h à Abuja, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Nigeria, 8 personnes ont été tuées quand un kamikaze s'est fait exploser devant un marché au bétail à Kargida, dans le nord-est du pays, selon un élu local et un habitant qui se sont confiés à l'AFP. Et toujours au Nigeria, nous avons appris aujourd'hui qu'une nouvelle attaque de Boko Haram avait eu lieu samedi soir dans un village du district de Madagali, dans l'état de l'Adamawa. 3 personnes ont été tuées et 7 femmes ont été enlevées, alors que la région est pourtant considérée comme sécurisée par le ministère de la Défense depuis qu'elle a été reprise à Boko Haram par l'armée en mars dernier. Et pour être tout à fait complet, c'est le secrétaire d'État John Kerry qui mènera la délégation américaine à la cérémonie d'investiture du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, la semaine prochaine à Abuja. C'est ce qu'a annoncé à la Maison Blanche aujourd'hui Monsieur Buhari, qui a remporté l'élection présidentielle contre le président sortant Goodluck Jonathan, doit être investi le 29 mai. Un grand nombre de chefs d'État et de gouvernements africains et occidentaux devraient également se rendre dans la capitale nigériane pour cette cérémonie. Au Burundi, malgré les tirs de sommation, des centaines de jeunes ont à nouveau manifesté à Bujumbura contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Les pays des Grands Lacs ont, eux, demandé le report de ces élections. C'est tout du moins ce qu'a indiqué le président sud-africain Jacob Zuma à son retour d'un sommet extraordinaire en Angola, consacré notamment à la crise burundaise. Plus de précisions avec Jacques Aristide.
La crise politique demeure totale à une semaine du début théorique des élections générales au Burundi. Des troubles qui inquiètent le président sud-africain, dont le pays est membre observateur de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Pour Jacob Zuma, il faut un report jusqu'au retour d'une stabilité permettant la tenue d'élections libres et justes. L'Afrique du Sud entend envoyer une délégation au Burundi avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pour contribuer à une résolution pacifique de la situation. Situation toujours tendue malgré la peur de la répression. Des protestataires se sont mobilisés ce mardi dans plusieurs quartiers périphériques de la capitale, quartiers où l'armée a été déployée. D'après l'AFP, les militaires ont tiré en l'air pour disperser les manifestants, mais sans grand résultat. Et lors d'un meeting improvisé ce même mardi, les principaux leaders de la contestation ont appelé leurs partisans à continuer le mouvement.
En bref, au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso entame demain des consultations sur la vie de la nation et de l'État. Pour l'opposition, M. Sassou, à la tête du pays depuis plus de 30 ans, lance des manœuvres pour modifier la constitution et rester au pouvoir. Et Congo-Brazza toujours, le gouvernement de Brazzaville est à nouveau accusé d'exactions envers les étrangers. La police a lancé une nouvelle opération à Pointe-Noire pour arrêter les immigrés en situation irrégulière et lutter contre la criminalité. 4 personnes sont mortes d'Ebola lundi en Guinée, où ont été rapportés 6 nouveaux cas à Doubreka, Forécaria et Boké. Dimanche, c'est la Sierra Leone qui avait signalé 2 nouveaux cas. À l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé hier, la directrice de l'agence, Margaret Chan, a annoncé un nouveau plan pour faire face aux urgences de santé. Nathalie Barge.
Jacques Aristide avec vous dans Washington.
La Guinée et la Sierra Leone ont enregistré au total 35 nouveaux cas d'Ebola la semaine passée, soit 4 fois plus que la semaine précédente. Il faudra un effort extraordinaire pour achever le travail, a souligné le représentant spécial de l'OMS pour l'Ebola, Bruce Aylard, que cite l'agence AP. Il a aussi averti que le retour des pluies accroîtra les difficultés logistiques. En réponse aux nombreuses critiques sur la manière dont l'OMS a géré la crise liée à l'épidémie d'Ebola, l'agence a annoncé une réforme de son programme d'intervention d'urgence au plan mondial. À l'ouverture de l'Assemblée générale de l'OMS lundi, sa directrice, Margaret Chan, a révélé que des équipes d'urgence de santé seront positionnées dans plusieurs pays et pourront se déployer sur le terrain en temps voulu. Je ne veux plus jamais voir cette organisation dans une situation où elle ne serait pas préparée, équipée, financée ou organisée pour gérer une crise, a souligné la patronne de l'agence onusienne, avant d'ajouter que l'OMS avait besoin de 100 millions de dollars pour y parvenir.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan à nouveau sur la crise burundaise. Après le coup d'État avorté, appel au report des élections, une armée divisée face aux manifestations contre le président Nkurunziza, flux croissant de réfugiés vers les pays voisins. Faut-il craindre le pire pour le Burundi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et retour sur le drame que vivent des milliers de migrants, mais au large de l'Indonésie cette fois. Les Nations Unies ont lancé aujourd'hui un appel pressant à l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande à accepter le débarquement de migrants bloqués en mer pour ainsi mettre fin à leur calvaire. Salwa Jaafari.
Cette femme décrit des scènes d'horreur. Elle était à bord d'un des rafios en perdition au large de l'Indonésie. Affamée depuis des jours, les passagers se seraient battus à coups de couteau, de machettes et de barres de métal pour mettre la main sur les vivres qui s'amenuisaient. 100 personnes seraient mortes ce jour-là. Les survivants ont été recueillis par des pêcheurs qui les ont amenés sur la côte. Ce sont des témoignages comme ceux-là, ces images choquantes de migrants entassés sur des bateaux à la dérive qui ont attiré l'attention de la communauté internationale sur ce drame. Les Nations Unies appellent aujourd'hui l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande à accepter le débarquement de migrants bloqués en mer. Écoutez à ce sujet son secrétaire général, Ban Ki-moon.
En réponse à la situation de la mer d'Andaman et le détroit de Malacca, des responsables des Nations Unies et moi-même avons parlé par téléphone au cours des derniers jours avec les dirigeants de la région pour souligner leur obligation de protéger les vies humaines et respecter le droit international humanitaire.
Pour l'instant, l'appel n'a été entendu que par les Philippines. Mani s'est dit prêt à venir en aide aux boat people de Birmanie et du Bangladesh au moment où ses voisins du sud-est asiatique les refoulent de leur rivage.
Au Yémen, un demi-million de personnes ont été déplacées depuis mars par le conflit où la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a repris mardi ses frappes aériennes sur la capitale Sanaa aux mains des rebelles chiites houthis. Plus de détails avec Michel Joseph.
Il s'agit, selon l'AFP, des premières frappes sur Sanaa depuis la fin d'une trêve déclarée du 13 au 17 mai par la coalition. La population de la capitale yéménite avait espéré que cette pause de 5 jours aboutirait à une trêve durable et au retour des protagonistes à la table de négociation. Mais la coalition rejette, sur les rebelles, la responsabilité de la reprise de ces bombardements en les accusant hier d'avoir profité du cessez-le-feu pour se renforcer. Pour l'adjoint du porte-parole de l'ONU, ces dernières frappes aériennes menacent la tenue d'une conférence internationale sur le Yémen. La coalition a commencé le 26 mars dernier sa campagne de frappes aériennes contre les Houthis, accusés de recevoir une aide militaire de Téhéran. Ces rebelles chiites se sont emparés depuis septembre de vastes territoires dans le centre, l'ouest et le sud du pays, forçant le président Abd Rabbo Mansour Hadi à se réfugier en Arabie Saoudite. Ce conflit a déplacé plus de 545 000 personnes, a indiqué mardi le porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés, Adrian Edwards. Il a fait en outre quelques 1850 morts et 7 394 blessés depuis mars, selon un dernier bilan de l'OCHA, l'organisme de l'ONU gérant les situations d'urgence.
Enfin, en Syrie, au moins 170 combattants du groupe État islamique ont été tués en 48 heures par des frappes aériennes de la coalition dirigée par Washington dans le nord-est de la Syrie. C'est ce que rapporte mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui, présentée par Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur